Ça y est, nous voici arrivés au dernier chapitre du Lévitique. Ce fut à certains moments un véritable parcours du combattant. À première vue, cette dernière section donne l'impression d'être un appendice, un post-scriptum en quelque sorte. Jusqu'à présent, le livre a traité la loi et ses obligations. Ce dernier chapitre adresse les vœux volontaires. Après les commandements, vient la spontanéité issue d'un cœur reconnaissant. Lorsque quelqu'un est touché par la bienveillance divine, il s'ouvre naturellement à son Créateur. C'est ce que nous enseigne tout le Nouveau Testament. Je lis un passage. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Fin de citation. Je ne suis aucunement tenu de faire un vœu, mais attention, si je m'engage, je suis lié, ce que nous confirme ce passage de l'Ancien Testament que je cite. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Fin de citation. Que ce soit un vœu ou une parole, Dieu est honoré si je tiens mes engagements et si je suis fidèle à ma parole, même si cela va me coûter quelque chose. Mon oui doit vouloir dire oui et même chose pour un non. Certains vœux étaient des promesses et d'autres exprimait un renoncement. Je commence à lire le texte. L'Éternel s'adressa à Moïse en disant, « Parle aux Israélites et dis-leur, si quelqu'un dédie une personne à l'Éternel par un vœu, il s'en acquittera d'après l'estimation suivante. S'il s'agit d'un homme entre 20 et 60 ans, sa valeur s'estime à 50 pièces d'argent au cours de la monnaie en vigueur au sanctuaire. Si c'est une femme, sa valeur sera de 30 pièces. Un garçon entre 5 et 20 ans s'estime à 20 pièces et une fille à 10 pièces d'argent. Depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, un garçon s'estime à 5 pièces d'argent et une fille à 3. À 60 ans et au-dessus, un homme s'estime à 15 pièces et une femme à 10 pièces. Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la valeur fixée, on la présentera au prêtre pour qu'il fasse une estimation en fonction de ses ressources. Verset 1 à 8. Il s'agit ici de vœux relatifs à la consécration des personnes au service de Dieu. On pouvait aussi s'acquitter d'un vœu en versant un prix de rachat au temple. Le coût était estimé selon la quantité de travail que l'individu voué pouvait fournir. Par exemple, en cas de maladie d'un enfant, les parents pouvaient le consacrer à l'Éternel s'il guérissait, mais ils pouvaient aussi racheter leur vœu et récupérer leur gosse. Dans un des livres de l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'Anne, une femme stérile qui a voué que si elle avait un fils, elle le donnerait au service du temple. Ce fut Samuel, le plus grand des juges de la nation d'Israël. Je continue. Si c'est un animal qu'on peut offrir à l'Éternel, qui lui a été donné, il sera tenu pour sacré. On ne le remplacera pas par un autre. On ne substituera pas une bête bonne à une mauvaise, ni inversement, car si l'on remplace une bête par une autre, toutes les deux, celle qui est remplacée et celle qui l'a remplacée, seront tenues pour sacré. Si l'on a dédié par vœu à l'Éternel un animal rituellement impur, qu'on ne peut donc pas offrir en sacrifice, on le présentera au prêtre qui en estimera la valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts, et l'on s'en tiendra à son estimation. Si l'offrant veut racheter la bête, il majorera cette estimation d'un cinquième. Si quelqu'un veut consacrer sa maison à l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en tenant compte de son état et l'on s'en tiendra à la valeur qu'il aura fixée. Si celui qui l'a consacrée veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé et elle lui appartiendra de nouveau. Versets 9 à 15. Pour ce qui est des animaux rituellement purs, consacrés à Dieu, ils sont remis aux prêtres et donc joints à leur troupeau. Les autres peuvent être rachetés. Mais si on promet quelque chose à Dieu, il faut aller jusqu'au bout, sans faire de jonglerie acrobatique pour essayer de le tromper. Les règles concernant les animaux impurs s'appliquent aussi aux maisons. Je continue. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un terrain faisant partie de son patrimoine, la valeur sera estimée en fonction de ce qu'on peut y semer à raison de 50 pièces d'argent pour 4 hectolitres d'orge. S'il consacre son champ dès l'année du Jubilé, c'est à ce taux qu'il sera estimé. Mais s'il le consacre à l'Éternel après le Jubilé, le prêtre en calculera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au Jubilé suivant et il réduira le prix en conséquence. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix estimé et pourra en reprendre possession. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un tiers, il perd son droit de rachat, de sorte que cette terre, au moment du Jubilé, sera consacrée à l'Éternel, tout comme un champ voué à l'Éternel. Elle deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis pour lui, et qui ne fait donc pas partie de son patrimoine, le prêtre en estimera la valeur en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au Jubilé. L'homme payera ce prix le jour même puisque le champ est consacré à l'Éternel. L'année du Jubilé, le champ reviendra à la personne à qui on l'avait acheté et qui le comptait dans son patrimoine. Toute estimation sera faite au cours du cycle en vigueur au sanctuaire. Ce cycle vaut 20 guéras. Versets 16 à 25. Un peu compliqué tout ça. Lorsqu'un champ fait partie du patrimoine ancestral de l'Israélite qui a fait le vœu, les règles sont différentes. Comme aucune partie du bien familial ne peut être vendue, il y a consécration non du sol, mais de son produit. Celui-ci est estimé en fonction de sa productivité, d'une part, et du nombre d'années restant jusqu'au prochain jubilé, d'autre part, où tout rentre dans l'ordre initial. Les propriétés de famille ne pouvaient pas être transmises à une autre, mais elles pouvaient revenir à l'Éternel, c'est-à-dire au prêtre, finalement. C'était le seul moyen par lequel un terrain pouvait être détaché du patrimoine primitif auquel il appartenait. Je continue. Évidemment, personne ne pourra consacrer les premiers-nés de son bétail à l'Éternel, car, comme premiers-nés, qu'il s'agisse de gros ou de petits bétail, ils appartiennent à l'Éternel. S'il s'agit du premier-né d'un animal rituellement impur, son propriétaire pourra le racheter au prix estimé majoré d'un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu au prix estimé. Versets 26 à 27. Les premiers-nés appartenant déjà à l'Éternel, ils ne peuvent être l'objet d'un vœu. Je continue. Par contre, rien de ce que quelqu'un a voué à l'Éternel, homme, animal ou champ de son patrimoine, ne pourra se vendre ou se racheter, car tout ce qui a été voué est très saint et appartient à l'Éternel. Si une personne a été vouée à l'Éternel, elle ne pourra pas être rachetée, elle sera mise à mort. Versets 28 à 29. Ce vœu se distingue des précédents. L'élément voué ne peut être racheté et doit être sacrifié ou détruit en l'honneur de l'Éternel. Certaines personnes ou peuples étaient dévoués par interdit, c'est-à-dire condamnés à mort par l'Éternel. Les Israélites devaient alors exécuter la sentence. Il en fut ainsi des Cananéens et quelquefois de toutes leurs possessions. Lors d'une des conquêtes, un Israélite désobéit et cacha ce qui aurait dû être détruit. En conséquence, il fut lui-même dévoué par interdit et exécuté. Je continue jusqu'à la fin. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur. Toute dîme de gros et de menu bétail, c'est-à-dire chaque dixième bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l'Éternel. Le propriétaire ne choisira pas entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, et on ne fera pas d'échange. Si on procède quand même à un échange, les deux bêtes, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées et ne pourront pas être rachetées. Versets 30 à 33. La dîme, qui consiste à donner le dixième de ses revenus à Dieu, était pratiquée dans tout l'Orient de toute antiquité. Elle diffère des vœux en ce qu'elle n'est pas facultative, mais on pouvait racheter pour soi la dîme de ses produits en la payant au prêtre à condition d'y ajouter un cinquième de sa valeur. Et le livre du Lévitique se termine sur ces paroles. « Tels sont les commandements que l'Éternel a donnés à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. » Verset 34. Quand on considère les exigences draconiennes de la loi de Moïse, on ne peut que se réjouir de la grâce de Dieu qui a été révélée pour moi et pour vous en la personne du Christ. Voilà ce que dit un texte du Nouveau Testament. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Fin de citation. Ça y est, je suis arrivé au bout, et vous aussi. Les sacrifices interminables d'animaux, les ordonnances infinies contenues dans le livre du Lévitique et qui coupent les cheveux en quatre, sont terminées. On respire. Nous voici arrivés à l'Évangile, la bonne nouvelle qui proclame justement que tout ce rituel est fini. Il n'a plus de raison d'être. Jésus apporte la délivrance et la plume de Luc nous raconte l'histoire du Christ en détail. Son Évangile est la première partie d'un ouvrage en deux volumes qui comprend, en second lieu, le livre des Actes des Apôtres. Le tout constitue 28% du Nouveau Testament, ce qui est considérable. Grec de naissance, cet auteur est particulièrement important, et pourtant, son nom ne figure pas dans ses écrits. Par contre, il apparaît à plusieurs reprises dans les lettres de saint Paul qu'il appelle « le médecin bien-aimé ». Et en effet, il utilise davantage de termes médicaux que ne le fit Hippocrate, pourtant le père de la médecine. Luc et Paul jouissaient tous deux d'un niveau intellectuel élevé et d'une éducation très poussée. Ils étaient tous deux particulièrement versés dans le maniement de la langue grecque, avec un plus cependant pour Luc. Ils voyagèrent ensemble et devinrent de très grands amis. Luc était non seulement un scientifique, mais aussi un artiste et un poète. On lui attribue d'admirables chants de Noël. Se disant historien, il apportait un soin tout particulier à sa recherche des fêtes pour des raisons bien précises. En effet, il semble qu'il ait écrit son évangile pour remplacer de nombreuses et inexactes narrations qui circulaient ici et là, et pour donner un récit authentique et inspiré de la vie, des miracles et de l'enseignement de Jésus-Christ, qu'il n'a pas connu personnellement. Aussi s'informa-t-il auprès de témoins oculaires. Selon la tradition, il aurait écrit son ouvrage en se plaçant du point de vue de Marie, mère de Jésus, qu'il semblait bien connaître. C'est ainsi qu'il est le seul à donner quelques détails concernant la jeunesse de Jésus. Il disposait aussi d'une entrée privilégiée auprès de la cour du roi Hérode, vassal de Rome, d'où il puisa certaines de ses sources, en particulier celles qui précisent des noms et des dates entourant le Christ. Son évangile est historiquement le plus complet. Il fait référence à des institutions, coutumes et à des détails géographiques de cette époque qui n'apparaissent pas dans les trois autres évangiles. Il a le souci constant d'enraciner les événements qu'il rapporte dans l'histoire du temps de son siècle. Ce qui me conduit à dire deux mots sur la véracité des écrits de Luc. À la fin du XIXe siècle, une vague d'incrédulité balaya l'Europe. Après un certain optimisme datant de l'époque victorienne, le XXe siècle vit l'apparition d'un très grand scepticisme qui poussa de nombreux érudits à mettre en doute l'historicité des textes bibliques. Parmi eux se trouvait un très brillant et jeune Anglais de Cambridge du nom de William Ramsay. Il avait étudié les Écritures et savait fort bien que Luc avait écrit la vie de Jésus ainsi que les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, en disant se baser sur des faits. Il savait aussi que la plupart des historiens font des erreurs ou trompent leur monde. Il entreprit donc de prouver que l'ensemble des textes sacrés n'était pas digne de confiance. Dans ce but, il se rendit en Asie mineure en tant qu'archéologue, dans l'intention expresse de démolir les fondements historiques des deux ouvrages de Luc. Après de fastidieuses recherches, il ne put atteindre son objectif premier et vint même à conclure que Luc était un historien impeccable. Suite à cette entreprise, il devint lui-même chrétien. Luc est donc un personnage très sérieux. Il s'adresse aux intellectuels du monde païen dans lequel régnait la plus grande confusion religieuse. Le 5e siècle avant Jésus-Christ vit l'apogée du génie grec dans le monde antique. C'est à cette époque que vint sur scène Périclès, grand stratège et chef d'État pendant 15 ans. Il porta à son zénith la puissance navale et coloniale d'Athènes. C'est aussi lui qui construisit le Panthénon. La civilisation grecque tenta de créer l'homme parfait, ce que révèlent leurs œuvres d'art et littéraires. Les Grecs recherchaient l'idéal, le parfait, l'universel dans tous les domaines de la vie, que ce soit la beauté physique ou la forme de gouvernement. Ils déifièrent l'homme avec ses nobles qualités, mais aussi avec ses passions dégradantes. Les statues magnifiques d'Apollon ou de Vénus contrastent violemment avec les représentations grotesques issues du paganisme oriental. Mais leurs dieux avaient les mêmes tares que les hommes, et c'est pourquoi ils conçurent Bacchus, par exemple, le dieu du vin et de la bonne chère. Dans la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand prit les commandes du monde grec. C'est lui qui répandit la culture, la langue et la philosophie grecque dans tous les pays qu'il conquit. Après avoir pris l'Égypte, il y fonda Alexandrie, ville dans laquelle l'Ancien Testament fut traduit en grec. Cette version s'appelle la Septante. A posteriori, il semble que les succès militaires d'Alexandre le Grand étaient providentiels, je dirais même voulus d'en haut. En effet, ces conquêtes facilitèrent grandement la propagation de l'Évangile. Le Nouveau Testament fut écrit en grec et put se répandre dans tout l'Empire romain et au-delà, jusque dans les territoires les plus éloignés qui étaient passés sous la botte d'Alexandre le Grand, suffisamment longtemps pour y adopter la langue et la culture grecque. Ensuite, vint l'Empire romain qui construisit les routes. Et c'est alors qu'apparut le Christ et Luc, dont nous parlons aujourd'hui, son messager. Il s'adresse à ses concitoyens, à une personne sophistiquée et éduquée et qui demande du solide. Luc poursuit deux objectifs principaux. D'une part, il présente Jésus en tant que fils de l'homme, parfait dans sa vie, à tout point de vue, même s'il fut rejeté par Israël. En cela, il apporte aux Grecs l'homme idéal qu'ils recherchent. En second lieu, Luc écrit à un certain Théophile, un personnage de haut rang social devenu chrétien, dans le but d'affermir sa foi en démontrant que tout ce qui entourait la personne du Christ reposait sur des bases historiques incontestables. En lisant ses écrits, on constate assez rapidement que Luc s'adresse surtout et d'abord aux païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la race d'Israël. Ainsi, il explique où se trouvent certaines localités juives que tous les Hébreux connaissaient, mais qui étaient tout à fait inconnues des autres nations. Il met davantage l'accent sur l'universalité du message de l'Évangile que les autres auteurs et souligne à plusieurs reprises que les païens ont eux aussi part aux bénédictions du Messie. Deuxièmement, il remonte la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, le premier homme, et non pas jusqu'à Abraham, l'ancêtre des Israélites, comme le fait l'Évangile selon Matthieu, qui s'adresse plus spécifiquement aux Juifs. Luc voulait démontrer que Jésus était le sauveur de toute l'humanité et pas seulement des Hébreux. Il présente le Fils de Dieu dans sa divinité et sa perfection comme notre grand prêtre, qui, ému par la douleur de nos infirmités, veut accorder son aide, sa miséricorde et son amour à tout être humain. Luc a donc constamment à l'esprit les païens que nous sommes, la plupart d'entre nous. Et je peux lui dire un grand merci. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.